Santos, the Brazilian Grand Prix, his first victory here, the 15th of his career, and by no doubt the most important. Massa finishes in second place, Alonso is going to come in third, and the dream is over for Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen is world champion of 2007, unless Rosberg and Kubica collide us. Well, Raikkonen led the world championship after the first round.
Vous avez reconnu la voix de Jean-Luc Roux. On n'avait plus l'archive d'RMC. Voilà.
Mais c'est incroyable.
C'était
ça.
Le commentaire en anglais, effectivement, du succès de Kimi Raikkonen, sacré champion du monde de Formule 1 le 21 octobre 2007. C'était le dernier Grand Prix de la saison à l'époque au Brésil. Hein. Et le dernier titre pour Ferrari.
Et voilà.
Mais ce qui nous intéresse dans ce souvenir, et parce qu'il résonne aujourd'hui, on a Interlagos, les McLaren, en fait, sont coiffés par le Finlandais, puisque Raikkonen avait devancé d'un point l'expérience. Expérimenté Alonso, qui était chez McLaren Mercedes, et un jeune rookie, Lewis Hamilton, dans l'une des fins de saison les plus serrées de l'histoire de la F1. McLaren n'avait pas choisi de leader, McLaren avait été puni. On en parle aujourd'hui, donc, parce que chez McLaren, c'est la même chose en ce moment. Zak Brown, le PDG de McLaren, a dit cette semaine, au propos de Piastri et Norris: nous avons deux garçons qui veulent devenir champions du monde, nous jouons l'attaque, pas la défense. Je préfère que nos deux pilotes terminent à égalité et qu'un autre nous batte d'un point plutôt que de dire à l'un d'eux, tu es à un point de ton coéquipier, m'en a tiré pile ou face cette année, ce n'est pas pour toi. Si Verstappen gagne, je lui serre la main, je lui dis bravo, a dit le patron de McLaren, cette semaine. Le souvenir de 2007, il répondait à ça, en fait, hein, parce qu'il en est question, au Brésil. McLaren s'était planté à l'époque, McLaren est en train de reproduire la même chose, Jean-Luc, on peut comparer?
Alors non, la situation était totalement différente dans la mesure où on avait le jeune loup Lewis Hamilton qui venait d'intégrer la Formule 1 et McLaren. Je rappelle que c'est Ron Dennis, faut quand même lui rendre hommage, qui a après Bruce McLaren bien sûr, mais qui a amener cette équipe de Formule 1 à ce niveau aussi élevé dans les années 80 avec bien sûr Prost, Senna, etc. Donc il avait choisi Lewis Hamilton qui était venu le voir, il l'avait surveillé depuis l'âge de 10 ans. Donc c'était vraiment le produit du sérail, il l'avait élevé comme un petit poulet, il en avait fait effectivement un champion, il l'avait amené en Formule 1. Et il y avait Fernando Alonso qui lui était sur ses deux titres de champion
chez
du monde,
Renault, ouais.
Venait de chez Renault, et il a arrivé en se disant, bon, bah, je vais décrocher mon troisième titre. Et puis, Fernando a compris aussi au cours de la saison, que c'était pas forcément lui le préféré au sein de l'équipe, que c'était plutôt le jeune poulet de grain élevé dans le sérail, élevé dans le poulailler.
Hamilton.
Et donc, Fernando, d'ailleurs.
Britannique de surcroît.
Britannique de, bah, il faut
si
toujours le rappeler.
Une écurie
anglaise,
c'est pas mal.
Il faut toujours le rappeler. Et donc, effectivement, c'est Alonso, quelque part, en a pris ombrage, et même plus que ça, puisqu'il a claqué la porte, comme vous le savez, après, il est parti immédiatement, alors qu'il avait un contrat de plusieurs années. Situation totalement différente. Là, oui, on a l'ancien Norris, comme on l'a évoqué, qui a mangé du pain noir avec McLaren quand ça ne marchait pas, parce que c'est quand même récent, hein, le rebondissement de McLaren, pour des raisons que personne n'arrive à comprendre. C'est ça qui est terrible, c'est que l'écart en Formule 1, maintenant, est tellement réduit. Comme je le dis toujours, là, actuellement, entre le meilleur temps, le poleman, et le 20e, souvent, il y a une seconde 8. Une seconde 8, c'est l'écart qui a parfois séparé, sur certains circuits, Ayrton Senna d'Alain Prost, les deux dans la McLaren. L'un était premier, l'autre était deuxième. C'est vous dire que ça s'est tellement réduit que là, à 2 dixièmes, t'es largué. Voilà. À 2 dixièmes, tu es largué. Encore une fois, j'évoquais tout à l'heure, là, sur ce Grand Prix du Brésil, les qualifs, Charles a failli ne pas passer la Q1, Charles Leclerc, avec la Ferrari, il était comme ça à la ramasse.
Donc ça veut dire aussi que c'est tellement serré maintenant que c'est encore plus difficile de déterminer qui est devant l'autre. Marc, Zak Brown, quand il dit on choisit pas, on préfère rester fidèle à notre ADN, et si Verstappen gagne, c'est comme ça. Bon ou mauvais patron, Zak Brown, le patron de
McLaren? Pour moi, bon patron, il a reconstruit une écurie mythique. Et à l'image de ce qu'est aussi Williams, qui reviendra à mon avis au premier plan assez vite, c'est des équipes de racers.
C'est-à-dire des grands pilotes.
C'est des équipes de course, c'est pas des équipes Ferrari. Pourquoi il y a des difficultés? Parce que c'est une équipe, entre guillemets, politique. Et quand on est chez McLaren ou quand on est chez Williams, on est dans une équipe de course. Ils font la course en IndyCar, ils font la course en Formule 1, ils vont refaire la course aux 24 heures du Mans. C'est une équipe de racers.
Ça t'aurait déçu du coup qu'on dise Norris est le leader? Parce qu'en fait, c'est pas.
Ah, mais dans la communication, ils mettent les deux à égalité, mais peut-être que dans l'arrière-boutique McLaren, on est sur un autre schéma.
Ouais, vous savez, moi,
historiquement, quand on regarde un peu l'histoire de ces équipes-là, il y a toujours eu des manipulations ou des embrouilles, mais c'est quand même des équipes de vrais pilotes, de vrais coureurs. Quand on remonte chez Williams à l'époque, Prost, moi j'ai un grand souvenir de Damon Hill qui avait été mis en gâteau à apéritif d'Ayrton Senna chez Williams et qui est quand même devenu champion du monde derrière. Donc il y a toute une histoire et c'est la même chose chez McLaren. Prost Senna, c'est quand même le sommet du sommet de la Formule 1. Ils ont été les deux champions du monde, mais ça a été des combats titanesques. Et McLaren et Ron Dennis entretenaient tout ça. Donc c'est des vraies équipes de course.
Le problème, c'est que Marc Madiot, il fait racer sur l'autoroute et du coup, il est obligé de...
Il a récupéré tous ses points, donc c'est à nouveau un racer. Non mais Philippe, manager, il a raison le patron de pas choisir.
Bon patron et puis l'éthique sportive. Voilà, je trouve que c'est magnifique.
Mais même s'il y a ce souvenir qu'on a entendu là de la fois où ils se sont fait avoir.
Mais tu veux quoi, Jean?
Mais là,
Jean Todt en 1989 sur le Dakar, lorsqu'il y a Hicks et Vatanen et qui d'un seul coup décide de figer la course et de dire il y a des consignes de course et du coup ça avait été terrible. Et Hicks était en tête et à 200 mètres de l'arrivée, il a freiné.
Un gros coup de frein.
Il a fumé sa clope, il a laissé Vatanen passer. C'était la négation du sport
avec automobile.
C'est la négation du sport.
Jackie est un copain. C'était la pièce de monnaie. Non, mais sérieusement. Pièce de monnaie, toc, ah, c'est toi.
C'est pas toi.
Mais c'est catastrophique.
Donc là, l'éthique sportive, moi je trouve que c'est magnifique.
Même si le titre peut leur échapper,
mais leur titre va pas leur échapper.
Mais attendez quoi,
ils ont beaucoup de points d'avance.
Au dernier moment, ils feront ce qu'il faut.
Ah oui,
je pense que
ils l'ont déjà fait a priori.
S'il faut faire une décision au dernier Grand Prix, ils le prendront.
Et non. Ce sera plus tôt, tu verras, parce que encore une fois, Piastri, je serais très surpris qu'il réussisse là un beau Grand Prix. On va parler de celui-là déjà. Donc Norris a évidemment toutes les chances d'être plus performant.
Là, il y a 9 points d'avance.
Encore se creuser. Et là, logiquement, on va dire bon, bah écoutez,
c'est voilà. L'évidence en fait.
Bien sûr, mais ça va devenir évident.
Mais t'as envie d'entendre ce message, voilà. Non, mais faire un message différent. Sincèrement, ça aurait été catastrophique pour la Formule 1. Le message,
c'est préservé.
Et là, pour une fois, je suis d'accord avec Marc.
On va y arriver. Voilà.
Un bon patron. Et je ne dis pas le reste. J'entends dans le micro loin. Comme ça. Non, on parle de Formule 1. Là.
Et, allez, l'OM, non. Si jamais, par exemple, Piastri gagne aujourd'hui, que Norris fait 0, ils seront bien embêtés quand même chez McLaren.
Ils seront très embêtés.
C'est ça la question. Bah, c'est-à-dire que ce discours-là, il va peut-être jusqu'à un certain point. Moi, j'adore. Hein, je suis un romantique aussi. J'ai envie qu'ils se battent dans la même écurie jusqu'au bout. Mais là, la différence, c'est que t'as un troisième type derrière qui peut t'embêter. C'est pas comme quand t'avais deux Ferrari. C'est pas les deux Mercedes d'Hamilton et Rosberg il y a quelques années. Là, on est dans une situation qui peut les humilier un peu si jamais ils sont pas champions.
Encore une fois, c'est la casse moteur du moteur, évidemment imprévisible, de Norris en Hollande qui a perturbé tous les plans. Parce que jusque-là, ça se passait comme il fallait, Norris allait prendre la main, etc. Et là, paf, il a pas marqué du tout. Et à ce moment-là, à l'inverse, eh bien Piastri gagne. Donc là, ils se sont dit, merde, comment on va faire pour remettre les choses dans l'ordre, en fait? Et donc, comment on les a remis? Encore une fois, on a fait comprendre, ou on a dit peut-être tout à fait en interne à Piastri, écoute, on t'aime beaucoup, t'es un jeune garçon très performant, tu seras sûrement champion du monde, mais pas cette année.
Il faut qu'on dise un dernier mot, Jean-Luc, quand même, sur Isaac Hadjar, qui va partir cinquième, aujourd'hui sur sa Racing Bulls. Lui qui veut le baquet de Red Bull à côté de Verstappen, c'est important.
Il a écouté ce qu'a dit Jean-Luc il y a quelques semaines.
C'était pas du tout. Tu vois que là aussi, je suis désolé, mais j'avais raison. Je disais simplement, il réclamait le baquet. Non, c'est pas ça. Il réclamait le baquet. C'est pas comme ça qu'on fait. On se tait, on travaille, on a des résultats, et voilà.
Il joue le baquet aujourd'hui, peut-être.
Alors, écoute, tu sais, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Regarde, parce que la Racing Bull de la vie de tout le monde, et y compris des pilotes, et je vais pas dire parce que c'est,
meilleur
on va encore le prendre à l'envers. Et moins difficile à exploiter, voilà, on va le dire comme ça, que la Red Bull. Donc, est-ce que c'est un cadeau d'aller chez Red Bull à côté de Verstappen? C'est pas certain.
Jean-Luc, cas de figure.
C'est pas certain.
Verstappen est dans les rétroviseurs d'Hadjar aujourd'hui, il le laisse passer tranquille, parce qu'il veut être son coéquipier l'année prochaine?
Non, je pense pas. Et en plus, je pense pas que ce soit dans sa mentalité. Non, au contraire, on portera à son crédit le fait de s'être battu. Non, je ne pense pas.
Il y a plein d'histoires, il y a des milliers d'histoires. Et quand il y a Jean-Luc Croix, il y a même des millions d'histoires avant un Grand Prix de Formule 1.
Oui, parce qu'on trouve toujours des références qui, effectivement,
Effectivement, départ à 18h, le titre se joue peut-être. Les baquets aussi pour la saison prochaine.
Il ne reste plus que cela, puisque ça y est, on a appris que Colapinto, la surprise, était reconduit chez Alpine.
Oh,
ça alors.
parce que c'est un superbe pilote argentin. Gasly partira 9e hein, sur sa Alpine. Ça, il faut signaler aussi.
Il en a rangé une dans le rail. Il n'a pas été le seul.
Elle était bien rangée.
Elle était bien rangée.
Le cocktail, je trouve, quand la Pinto, non ? Ça vous fait penser à un cocktail.
Tu penses aux vacances, toi, déjà.
Je te préparerai un Quirino si tu veux tout à l'heure.